Bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de voir aussi des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez tous là pour ce jour de fête. Amen. On veut se réjouir aussi avec les baptisés particulièrement, et aussi leurs familles qui sont là, et leurs amis qui sont là, ou peut-être des personnes qui sont là aussi pour la première fois. Soyez les bienvenus. Et peut-être si vous êtes ou si vous suivez aussi ce culte pour la première fois, ben, sachez quoi, là, qu'on a un temps toujours de louange, on loue le Seigneur, et on a un temps aussi, on s'arrête aussi sur la Bible et on la médite ensemble. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors soyez les bienvenus au milieu de nous et merci de nous supporter et de me supporter ce matin. Voilà. Voilà, c'était beau ce matin ces baptêmes, pour ceux qui y étaient. C'était magnifique le temps, l'eau était chaude. Ça, c'est important pour ceux qui sont dedans, parce qu'on a compassion pour eux. Il faisait beau, il y avait les montagnes, et c'était magnifique en tout cas. Des beaux baptêmes, mais j'aimerais parler d'un autre baptême ce matin, qui est le baptême de Jésus-Christ. Et oui, ça tout a commencé là, et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus ce matin, si vous êtes d'accord. Alors, on va lire un texte qui parle justement de ce moment-là, qui remonte il y a bien longtemps, près d'un autre lac, qui n'est pas le lac Léman, mais le lac de Galilée. Alors, on va lire ensemble dans l'évangile de Marc et au chapitre 1 et les versets 9 à 12. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui dans la forme d'un oiseau. Ou certaines traductions disent comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux: Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Un texte très court où se passe plein de choses. On va s'arrêter ce matin pour méditer et j'ai quelques pensées que j'aimerais vous partager sur ce baptême que Jésus a vécu. La première pensée qui me vient en lisant ce texte, c'est que lors du baptême que Jésus a vécu, son Père a déclaré quelque chose d'extraordinaire sur lui et de fondamental. Il a dit cette parole incroyable: Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Certaines traductions littérales disent: En toi, je prends plaisir. En toi, j'ai du plaisir. J'ai de la joie. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Magnifique. Mais vous savez, j'aimerais vous dire ce matin, et j'aimerais dire aux baptisés et à ceux qui le sont, qui ont cru en Jésus, cette vérité de l'Écriture est pour vous et pour toi ce matin. Cette vérité de l'Écriture est pour toi également. Pas seulement pour Jésus, mais aussi pour toi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, vous connaissez ce livre, cette épître que Paul a écrite au chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent selon l'Esprit. Plus loin, au verset 15, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et nous l'avons chanté aujourd'hui. Nous étions orphelins et Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et il est dit un peu plus loin que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Au verset 17 de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que ce qu'il a, c'est aussi pour nous. Si nous croyons en lui, si nous croyons en son œuvre, en sa mort et en sa résurrection, alors, en Christ, nous pouvons recevoir cette parole aujourd'hui qui dit: Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui je prends plaisir. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et Dieu déclare cela sur vous ce matin, pour ceux qui croient. Il dit: Tu es l'objet de mon affection. En te regardant, j'ai du plaisir. Alors, tournez-vous vers votre voisin, votre voisine et dites: Dieu a du plaisir en te regardant ce matin en Jésus. Amen. Dites-le, dites-le vous, si peut-être vous ne le croyez pas ce matin, dites-le vous. Dieu a de la joie à te voir, waouh! C'est extraordinaire. Et il y a cette parole toujours dans Romains qui dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, enfin tout, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Waouh! Amen! Cette parole est vraie ce matin pour ceux qui veulent recevoir, qui sont prêts à recevoir. Et aujourd'hui, rien ne peut nous séparer de cette promesse que Dieu a déclarée à son fils et qu'il nous le déclare aujourd'hui. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, objet de mon affection. En tout cas, rien du côté de Dieu. Parfois, c'est plus difficile de notre côté. Parfois, on n'y croit pas vraiment. Ou parfois on se dit, ouais, ça c'est pour les autres. Regarde ma vie, Seigneur, c'est pas pour moi. Et on se dévalorise. Mais j'aimerais vous dire que du côté de Dieu, tout a été payé, tout a été fait, tout est accompli, le chemin est ouvert. Et aujourd'hui, cette parole, si tu l'as saisie par la foi, elle est pour toi. Et c'est hyper important de comprendre que cela, c'est le début de toute relation avec Dieu, c'est de reconnaître cet amour de Dieu manifesté pour moi. C'est le début de tout, ça fonde le début de mon chemin avec Dieu. Tout commence dans ma vie avec Dieu par la déclaration de l'amour de Dieu et de sa faveur sur nous, de sa grâce sur nous. Tout commence par là. Et toute notre vie est une réponse à cette faveur. Toute notre vie, on a tellement réaliser cet amour de Dieu dans notre vie, qu'il est venu nous chercher, qu'en fait toute ma vie, c'est une réponse de dire « Seigneur, je veux te suivre, je veux t'aimer et je veux vivre toute ma vie avec toi ». Et vous savez, le premier acte de ce retour, de dire ce retour, le premier acte concret, c'est le baptême. Je m'engage. Je te dis oui en retour à ton oui sur ma vie, en retour à ton amour sur ma vie, je te réponds oui aussi. Et aujourd'hui, c'est ce que font les baptisés, en disant, je me positionne, je veux dire oui à Dieu pour la vie. Amen. Que c'est beau. Deuxième pensée sur ce texte, c'est que l'amour de Dieu est le fondement et la source de mon identité. Je ne fais pas ceci ou cela pour être aimé de Dieu, mais c'est parce que je suis aimé de Dieu que je vais faire ceci ou cela, que par exemple je vais suivre ses commandements qui ne sont pas évidents à suivre, mais parce que c'est cette source en lui, de cet amour-là, que je vais pouvoir le vivre. Et le fondement de notre vie chrétienne se trouve dans cette déclaration d'amour de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, l'objet de mon affection. Et ça me frappe en fait à quel moment cette parole est dite sur Jésus. À quel moment de sa vie, si on s'arrête juste quelques secondes, quand le Père lui déclare cela, Jésus, en fait, si on réfléchit bien, n'a pas fait beaucoup de choses ou des choses impressionnantes encore dans sa vie. Nous sommes à cet instant précis dans l'évangile de Marc, où finalement Jésus n'a pas encore accompli beaucoup de guérisons. Jésus n'a pas encore été tenté par Satan dans le désert, n'a pas encore remporté l'épreuve du désert. Jésus n'a pas encore vécu la crucifixion, n'a pas encore vécu la résurrection. C'est vrai que cette déclaration-là, on pourrait se dire, elle serait logique de le faire après quelque chose que Dieu, que Jésus aurait accompli de manière extraordinaire. Je ne sais pas, moi, peut-être quand il aurait multiplié les pains à toute une foule et puis qu'il serait révélé, ou bien peut-être quand il aurait ressuscité Lazare et qu'il aurait révélé qui il était. Peut-être à ce moment-là, ça aurait été le bon moment pour Dieu de déclarer sur la vie de son fils, « Tu es mon fils bien-aimé, l'objet de mon affection. » Mais non. La Bible commence avec le baptême de Jésus, commence avec le début de son ministère, je pense aux évangiles. Mais il n'y a pas grand-chose qui est dit sur Jésus avant. On a les textes de sa naissance, dont on se rappelle à Noël, hein, qui parle de tout comment il est né. On a un bref épisode à l'âge de 12 ans, mais c'est tout. Et on retrouve Jésus, là, adulte, sur les rives du Jourdain, comme nous ce matin, les pieds dans le sable, la lumière du soleil nous aveuglant un peu. Et on retrouve Jésus au milieu d'une foule et de d'autres personnes qui se faisaient déjà baptiser, parce qu'il y avait Jean qui baptisait les gens, qui baptisait plusieurs personnes qui croyaient. Et Jésus était au milieu de ces baptisés, comme au milieu de nos baptisés ce matin. Donc dans l'anonymat le plus complet. Celui qui était digne de louange, Dieu fait homme, le Dieu créateur là, incarné en Jésus, qui mérite toute adoration, toute gloire, a passé des dizaines et des dizaines d'années dans l'anonymat le plus banal. Il a passé la plus grande partie de sa vie à faire des choses qui n'étaient pas forcément extraordinaires. Il a vécu des jours paisibles dans sa famille. Il a travaillé, il s'est fatigué. Il a vécu une vie monotone et quelconque parmi des gens ordinaires. Et c'est dans ce contexte-là que le Père déclare cette parole, alors qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Et au moment de l'envoyer dans son ministère, il n'attend pas qu'il ait fait des choses, mais il le déclare avant, comme source et fondement de son ministère. Le Père aime Jésus d'un amour éternel. Chacun des actes du Fils, par la suite, vont découler de son identité de bien-aimé. Il va prêcher, il va guérir, il va enseigner, non dans le but d'obtenir l'approbation de son Père, mais c'est parce qu'il a cette approbation du Père, cette grâce, cette certitude inébranlable que celui-ci l'aime et que c'est dans cela qu'il va le faire, les actes pour Dieu. C'est la source. Son approbation, elle est déjà là en Dieu. Et quand nous prenons le baptême, nous sommes au début de notre relation avec Dieu. Nous sommes au tout début, on a découvert la grâce de Jésus-Christ, on a découvert son amour, on a découvert qui il était, combien il nous aimait, il est intervenu dans notre vie, il a montré qu'il était là. Et nous n'avons encore pas fait grand-chose dans notre vie, que ce soit dans le service, que ce soit peut-être même dans notre ministère, peut-être où Dieu nous appelle à faire des choses, même dans notre sanctification, on n'est pas encore parfait. Et il y a plein de choses qui, dans notre vie, ne sont pas encore à la gloire de Dieu. Et Dieu déclare cela sur nos vies à ce moment-là. Et c'est le véritable sens du baptême. Cultivons ce véritable sens qui dit « Je veux me laisser aimer par toi et apprendre à être aimé par toi. » On enseigne aux luthériens que la toute première chose à faire en début de la journée et le signe de croix en témoignage à leur baptême. Le baptême, vous savez bien sûr que, pour la plupart, que ça symbolise le pardon des péchés et l'acceptation des promesses à venir. Et quand on est immergé dans l'eau, notre vieille nature est abandonnée dans cette eau alors qu'on est plongé. Et quand on ressort de l'eau, nous avons cette nouvelle nature en Christ que nous revêtons. Cette union, finalement, à Christ et au Christ ressuscité. Et Martin Luther, il ordonnait à chacun des membres de sa communauté de considérer le baptême comme un vêtement quotidien qu'il fallait se revêtir tous les jours. C'est intéressant. Et j'aimerais vous proposer un exercice. Alors, je ne vais pas vous demander de devenir des luthériens, je vous rassure. Mais si nous effectuons cet exercice le matin. Vous savez, le matin, ce moment où on sort de la nuit, on se réveille, et ça dure plus ou moins longtemps pour certaines personnes, ce laps de temps. Vous savez, entre le moment où le réveil sonne et avant que vous entriez dans votre journée, même que vous entriez dans les rituels du matin, petit déjeuner, brossage des dents et toutes ces choses-là, avant que vous entriez dans toute votre journée aussi, dans vos responsabilités, avant même aussi d'enfiler vos identités. Vous savez, on enfile les identités le matin pour la journée. Identité de père, de mère, de mari, peut-être même d'homme d'affaires, d'étudiant, de tout ce qu'on peut être. Avant tout cela, dans ce moment de pause du matin, où on s'éveille après une nuit et qu'on se pose la question, mais finalement, qui je suis moi, au plus profond de mon être? Qui je suis? Et dans ce moment précis, l'exercice il est là, j'aimerais vous proposer de vous revêtir à ce moment-là de votre véritable identité. De vous réveiller en tant que baptisé. C'est-à-dire, nous sommes unis à Christ et le Père réitère, redit sur nous, alors à mon sujet, sur ma personne, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, l'objet de mon affection. À ce moment-là, on réitère et on redéclare sur notre vie la faveur de Dieu, sa grâce sur notre vie, avant que je fasse quoi que ce soit. Et dès les premiers instants de notre réveil, nous sommes quelque part marqués à ce moment-là par une identité qui nous est donnée par grâce plus profonde et réelle que toute autre identité que nous allons revêtir au cours de notre journée. Et avant que ne se déroule la liturgie de notre journée, la liturgie c'est ce qui revient de manière régulière, la cuisine, les bouchons sur la route, les envois de courriels, les choses à faire, le travail, le repos, mes vacances, les loisirs, on peut continuer la liste longtemps, hein. Eh bien commençons par être aimés de Dieu. Ce qui me définit en premier lieu, ce ne sont pas mes compétences, ce n'est pas mon statut matrimonial, ce n'est pas mes opinions politiques, ce n'est pas mes réussites, ce n'est même pas mes échecs, ce n'est pas ma célébrité, ce n'est pas mon anonymat, ce n'est pas, pour continuer la liste, mais c'est le fait d'avoir reçu le sceau de Jésus-Christ, le sceau du Saint-Esprit, d'être caché en Christ et d'être aimé du Père. La personne que je suis au plus profond de moi est une personne baptisée. Une personne baptisée. Ça vous dit de faire l'exercice ? Je le fais depuis pas longtemps, depuis que je médite ce texte. Et c'est une vraie bénédiction, vraiment. Une autre pensée, une dernière pensée, qui m'a frappé en lisant ce texte, c'est que Jésus menait une existence banale, à ce moment-là, je l'ai dit, un métier quelconque, charpentier, quand il a reçu donc cette parole. Et j'ai envie de vous dire ce matin, nul n'est besoin de vivre des moments extraordinaires, des moments incroyables pour alimenter notre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu ne repose pas sur des actes qu'on peut faire ou qu'on doit faire. Elle ne repose pas sur des actions. Elle ne repose pas même sur des émotions qu'on peut avoir. Mais elle repose d'abord sur la foi en ce que Dieu dit sur nous et ce que Dieu dit sur moi. C'est ça, le fondement. Et Dieu vit en moi dans mon quotidien. Notre vie est cachée en Christ. Elle est en Christ. Elle n'apparaît pas comme ça au grand jour. Et notre vie, elle est dans notre relation avec Dieu. Nous aurons des moments où nous vivrons des émotions fortes, des choses grandioses. Et ça fait partie de la vie, mais aussi dans la vie monotone et banale de mon quotidien. Vous savez, moi j'aime bien des fois discuter de théologie, et de la Bible, de m'émerveiller la parole de Dieu, et puis je peux être là avec un frère ou une sœur, ou quelqu'un, je discute avec lui, et puis je suis en train de m'émerveiller de la parole de Dieu, je vis un moment extraordinaire, et puis il y a ma fille qui débarque et qui me dit « Papa, commence à me parler, et qu'est-ce que tu veux dire ?» L'autre jour, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Elle voulait me dire qu'un flocon était tombé du ciel et pour attraper une souris. Et je dis « Mais t'es sûr, un flocon qui est tombé du ciel ? Attraper une souris ?» C'était un faucon, en fait. Après, on a travaillé sur faire la différence entre flocon et faucon. Mais c'est ça la vie chrétienne. On passe d'un moment extraordinaire à expliquer, à essayer de comprendre ce que sa fille veut dire, et à finalement et en arriver à parler de flocons et de faucons. Voilà. Et c'est important pour nos baptisés ce matin de ne pas leur donner quelque part une vision idéalisée de la vie chrétienne. Je peux vivre des moments extraordinaires où je discute sur des grands discours théologiques. Hein. Je connais Julie qui aime bien aussi débattre aussi. Mais il y a cette banalité aussi de la vie avec Christ. Et Dieu est là aussi. Et parfois, la vie n'a rien d'un film. Si on réfléchit un peu ce que c'est un film, en fait, c'est la vie sans les moments monotones. C'est vrai, quand on y réfléchit un petit peu. On a enlevé toutes ces longueurs hein, qui sont là, qui font partie de la vie. On a des courses-poursuites, on a les premiers baisers, on a par exemple une intrigue intéressante. Voilà, c'est comme ça un film, hein, ça, y a un rythme qui est là. Et puis surtout, on ne va pas commencer à s'intéresser, à mettre dans le film que le personnage principal, on va le voir dans les bouchons en train d'attendre, se brosser les dents, surtout pas, sinon ça va être déjà interminable comme film, et pas très intéressant, ou si on le fait faire deux, trois choses banales de la vie quotidienne, il ne faut pas que ça dure longtemps, et surtout une bonne bande-son. Ça passe vite. Et parfois, on a aussi tendance à idéaliser la vie chrétienne, la vie en Christ, sans ces moments monotones. Pourtant, Dieu nous a créés aussi pour que nous passions des journées à nous reposer. Pas besoin de vous dire qu'une grande partie de notre vie, on la passe à dormir. Et la grâce de Dieu est sur nous aussi à ce moment-là. Cette déclaration, tu es mon fils et ma fille bien-aimée, est sur nous à ce moment-là aussi, alors qu'on ne fait rien. On passe une bonne partie de notre temps à travailler, à jouer, à prendre soin de notre corps, de notre famille, de notre voisin, de notre lieu d'habitation. Et si tous ces moments monotones de notre vie étaient aussi importants aux yeux de Dieu? Et si toutes ces journées qui nous semblent parfois insignifiantes, petites, étaient finalement lourdes de sens et faisaient partie du projet de Dieu quand il dit qu'il nous donne la vie en abondance? C'est une question que je me pose, que je nous pose ce matin. Les années un peu ordinaires de la vie de Jésus-Christ révèlent elles aussi de l'histoire de notre rédemption. L'incarnation, donc cette longue période de la vie de Jésus qui nous est en partie, qui n'est pas connue, inconnue, et pourtant, elle donne sens à nos petites vies normales. Si Jésus était charpentier, alors nous tous qui sommes en Christ, nous découvrons que notre travail est sanctifié. Si Christ a vécu dans l'anonymat, ben c'est que celui-ci est d'une infinie valeur. Et nous n'avons pas besoin de courir après le succès que nous promet parfois la société comme signe d'épanouissement. Si Christ a vécu dans cet anonymat, voilà, ça fait partie aussi de notre vie avec lui. Et si Christ a consacré une grande partie de sa vie et de son existence à des activités de la vie quotidienne, alors toute notre vie entière est sous la souveraineté de Dieu. Nulle tâche n'est trop petite pour ne pas refléter Dieu, pour refléter Dieu. Nulle tâche n'est trop routinière pour refléter Dieu et sa gloire. Voilà, il me semble, quelques pensées que je voulais vous laisser ce matin. Que je voulais vous rappeler sur le baptême ce matin. Le baptême est d'abord une identité, la déclaration de Jésus-Christ, en Jésus-Christ de l'amour du Père pour nous. Et c'est cela qui fonde notre relation. Je vous ai rappelé aussi une deuxième pensée. Le baptême n'est pas appelé à être vécu une seule fois. Bien sûr, pratiquement, c'est qu'une seule fois que ça nous arrive. Mais continuons à nous revêtir de ce manteau, ce vêtement du baptême, tous les jours. Et à revenir peut-être à ce fondement comme identité profonde, et non nos responsabilités, non qui nous sommes aux yeux de la société, non nos échecs ou nos réussites qui devraient nous définir. Et enfin, le baptême, c'est notre union à Christ. Et dans cette union à Christ, c'est aussi des moments de la vie de tous les jours, tout simplement. Il y a de la banalité dans la vie chrétienne. Il y a pas seulement des moments extraordinaires, pas seulement des émotions extraordinaires, mais aussi des moments tout simples. La simplicité, parce que notre vie est cachée en Christ. Je terminerai avec ce verset de l'Épître aux Colossiens qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin qui se manifeste tout à nouveau. Seigneur, j'appelle ta faveur sur nos baptisés, Hilaria, Thomas, Julie, mais sur tous les baptisés qui sont là aussi ce matin. Ta faveur et ta grâce se renouvellent chaque matin. Et ce matin, Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur nous et je veux prendre, Seigneur, demander, Seigneur, ta grâce sur toutes les pensées qui s'élèvent contre toi, contre ce que tu dis, contre l'adversaire aussi. On le voit dans ce texte sur le baptême, que Jésus va être tenté peu de temps après, va être attaqué sur cela. Seigneur, viens nous garder nos pensées, viens garder nos cœurs, viens nous restaurer ce matin. Et que s'il y a des personnes qui découvrent pour la première fois ton amour ce matin, qu'ils puissent juste répondre par un oui. Et que Saint-Esprit fait l'œuvre dans leur cœur et dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.